soir. Au cours d'une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa, les envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs ont demandé à la CENI de publier un calendrier électoral global. Lancement officiel depuis vendredi passé du processus de reddition des combattants rwandais FDLR dans le Kivu. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous aurons autour de cette table Jean-Louis Miasuekama, il est rédacteur en chef à Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Jean-Louis Miasuekama.
Bonsoir.
Albert Omba, il est journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Bonsoir Dimanche.
Et Dimanche, Katereka Kamate, il est journaliste à la radio Moto Oicha de Butembo, au Nord Kivu. Bonsoir Dimanche, Katereka Kamate.
Bonsoir Dimanche, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Tapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Les envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs demandent à la CENI de publier un calendrier électoral global. Le processus de reddition des FDLR est en cours depuis une semaine au Kivu. Nous allons voir comment la presse a analysé ces différentes informations à travers cette revue de presse que nous propose Alain Hirong.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la visite des envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs. La Prospérité renseigne à propos des élections 2015-2016 qu'à la CENI, les envoyés spéciaux exigent un calendrier électoral global, avec à leur tête Mary Robinson, l'œil de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, précise le quotidien. Ils exigent un calendrier qui prendrait en compte tous les scrutins, y compris les législatives nationales et la présidentielle 2016. C'est ainsi que le potentiel note qu'en fin de mission dans la région, les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs expriment leur volonté d'accompagner la RDC. Forum des As relève à la une qu'au regard des observations des envoyés spéciaux à la CENI, des ajustements s'imposent. Le confrère estime que la centrale électorale ferait œuvre utile en intégrant les réactions des parties prenantes par rapport au calendrier électoral qu'elle a publié dernièrement, fixant les élections locales, municipales et urbaines en 2015, sans les autres scrutins du cycle électoral. Pour le journal Le Phare, la CENI est au pied du mur. Mais le palmarès trouve qu'il y a une tentative suspecte de modification du calendrier électoral, le hold-up manqué à la CENI. S'agissant du processus de reddition des FDLR, la tempête des tropiques souligne que les envoyés spéciaux ont rappelé que les FDLR sont un groupe armé illégitime qui fait l'objet des sanctions de l'ONU, qui est aussi responsable des graves violations des droits humains et du droit international humanitaire. Pour sa part, Le Phare met en exergue la déclaration de Martin Kobler, on va accentuer la pression militaire. Au cours de la conférence hebdomadaire de mercredi dernier, le patron de la MONUSCO a relancé un ultimatum à l'endroit des FDLR dont une centaine d'éléments se sont rendus vendredi 29 mai dernier dans la localité de Kasekou au Nord Kivu. Dans un autre chapitre, le tabloïd du groupe L'Avenir nous informe que suite à la violation du moratoire de l'OIC, par la RDC, Korongo suspend ses vols domestiques, mais les vols à destination de Johannesburg sont maintenus. Le palmarès lui annonce qu'à l'issue des travaux de la commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo, un compromis trouvé de justesse entre Kinshasa et Brazzaville. Pendant ce temps, le potentiel signe, la patate chaude, l'autre face des expulsions de Brazzaville.
Merci Alain Hirong, Jean-Louis Miasukama. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la fin mardi dernier ici à Kinshasa de la commission spéciale défense et sécurité entre la RDC et le Congo Brazzaville. Et à l'issue de toutes ces séances de travail, les deux parties ont décidé de mettre sur pied une équipe mixte pour examiner au cas par cas les allégations des violations des droits humains commises lors des expulsions. Votre commentaire.
Bon, effectivement, ces violations de droits de l'homme pendant les expulsions ont été très flagrantes, teintées aussi du côté de Congo-Brazza, on dirait, d'une certaine attitude légaliste que d'une certaine une certaine rancœur ou haine envers les Congolais de Kinshasa. Et donc, il fallait nécessairement couper la poire en deux, qui est une commission mixte, pour qu'on puisse tempérer les ardeurs des uns et des autres pour essayer de trouver un peu plus d'objectivité. Mais il est vrai que même malgré ces signatures, malgré cela, on dit que je pense à le vin est tiré, il y a un travail plutôt de fond à faire. Dans le sens que l'essentiel, c'est que nos autorités se rendent compte que, quel que soit de Brazzaville ou de Kinshasa, elles sont au service des habitants des deux rives. Et que tout ce qui est mis en cours, même les accords, c'est d'abord pour eux. Sinon, on va faire des sauts, mais on va faire des rencontres, mais qui n'ont aucune influence, n'ont aucune importance pour ces gens.
Merci Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Après que la commission mixte RDC Congo-Brazzaville ait décidé de mettre sur pied cette équipe mixte, qu'est-ce qui va s'en suivre à votre avis? On va mettre fin aux expulsions massives ou il n'y aura pas de changement sur le terrain?
Normalement, il n'y aura pas de changement significatif sur le terrain parce qu'on sait que le responsable de la sécurité du Congo-Brazza a insisté sur le fait que son pays n'avait pas expulsé les Congolais, ils avaient expulsé seulement 290 hors la loi. Tous les autres, c'était l'effet d'entraînement, il n'y a personne qui les a expulsés. Alors on ne pouvait pas les taxer d'avoir fait quoi que ce soit. Ce qui fait vraiment honte, c'est un grand mensonge parce qu'on a vu et comment à travers le fleuve Congo des milliers de Congolais rentrent de tous les coins de la République du Congo vers leur pays, et ce qui fait que cette commission ici est venue à retard. Il fallait d'abord, avant que le Congo-Brazza arrive à prendre une décision d'expulser massivement les ressortissants du Congo-Kinshasa, et ils devaient se concerter. Il y a des voies diplomatiques qui sont très 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 bien, parce que à mon entendement, on dit toujours qu'il n'y a pas de frontière entre Brazza et Kinshasa, que le fleuve Congo constitue seulement un boulevard. Et aujourd'hui, ce mythe est tombé avec tout ce qu'il y a eu comme débordement, tout ce qu'il y a eu comme violation des droits de l'homme à l'égard des Congolais et Congo-Kinshasa qui ont été expulsés.
Merci. Dimanche, Kassari Kakamate. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Moto Oicha de Butembo, Nord Kivu. La commission mixte est arrivée en retard. C'est une commission qui devait se tenir avant que les Congo Brazzaville ne puissent prendre la décision d'expulser les Congolais de la RDC. Quel est votre commentaire?
Oui, chers confrères, ce qu'il faut d'abord savoir, nous devons parler de notre cas. Les dirigeants de ce pays doivent prendre conscience. Lorsque les Congolais se décident d'aller vivre au Congo Brazzaville, ça prouve en suffisance que les conditions dans lesquelles ils vivent ici en RDC ne sont pas bonnes. Et donc, pour moi, vous avez besoin de créer des commissions, voir dans quel sens les Congolais peuvent encore retourner là-bas. Le mieux serait de stabiliser le pays, parce qu'en stabilisant le pays, les Congolais auront plus le courage de vivre chez eux que d'aller vivre ailleurs. Et donc, nous pouvons clire ce commentaire sur ce que les Congo Brazzaville est en train de faire. Voyons comment nous pouvons stabiliser notre pays pour permettre aux Congolais de vivre mieux dans leur propre pays.
Merci Jean-Louis Miasokoma. L'autre actualité, c'est la ronde qu'effectue depuis quelques jours dans les prisons de Kinshasa la vice-ministre des droits humains, et cela intervient au moment où on apprend qu'à la prison centrale de Bukavu, 301 personnes se sont évadées. Il y a eu 4 morts, 4 blessés et 4 armes AK-47 qui ont été emportées par les fugitifs.
Oui, effectivement, c'était assez dur. D'ailleurs, on touchera un mot dans notre journal le soir sur cette évasion. Mais déjà depuis un certain temps, et la MONUSCO s'est souvent fait l'écho de l'état de nos prisons, surtout à l'intérieur du pays et surtout à l'Est. Donc il faut qu'il y ait une véritable politique mise en place pour cela, une véritable politique carcérale. Mais même la tournée de la vice-ministre a aussi montré beaucoup de problèmes ici. Et je pense que c'est une bonne initiative parce que souvent, on a souvent critiqué le gouvernement pour être un peu laxiste dans la question carcérale, question de droits de l'homme, mais là, elle a pu elle-même se rendre compte de visu de la situation des prisons. Je pense qu'une personne, même si elle est condamnée ou qu'elle soit condamnée ou pas, elle reste une personne humaine. Elle a droit à certaine dignité, même dans, surtout dans le milieu carcéral.
Merci. Albert Omba, un mot par rapport à ce qui s'est passé hier à Bukavu, à la prison centrale de Bukavu, et qui coïncide avec cette visite qu'effectue Madame la vice-ministre des droits humains dans les différentes prisons.
Oui, c'est déplorable, parce que vous allez voir qu'il y a... Le cas revient souvent dans beaucoup de prisons. C'était à Kindo il y a, je crois, 6 ou 8 mois, que ce même événement était arrivé. Il a fallu que la MONUSCO donne le moyen pour qu'on puisse un peu entretenir la prison et mettre un peu de l'ordre. À Bounia, c'était il y a, je crois, 2-3 ans. Beaucoup d'évangiles aussi à Kisangani. Donc, ce qui fait que les prisons congolaises sont presque pourries. Ce sont des bâtiments qui ont été construits par les Belges, et depuis l'indépendance, personne ne s'est soucié de s'occuper de réfectionner, même de reconstruire d'autres prisons. C'est ce qui fait qu'il est lamentable.
Merci, dimanche, Katereka Kamate. Quelle est l'actualité aujourd'hui à Butembo, au Nord Kivu, à Oicha, au Nord Kivu?
Oui, pour le moment, l'actualité qui domine, c'est juste la arrestation des deux confrères journalistes qui ont été accusés de détournement d'une somme équivalente à plus de 4 000 dollars au niveau de la ville de Beni ainsi que du territoire. Donc, les deux confrères sont pour le moment au niveau du parquet. Ils sont en train juste de s'expliquer devant les hommes à torche. Donc,
merci.
De manière brève, c'est ça la réalité qui domine cette partie du pays.
Merci. Notre premier thème de ce soir, au cours d'une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa, les envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs ont demandé à la CENI de publier un calendrier électoral global. Les envoyés spéciaux de la communauté internationale demandent à la CENI de publier un calendrier électoral global allant des élections locales aux présidentielles. Et cela dans les délais constitutionnels, soit entre 2014 et 2016. Au cours d'une conférence de presse mardi dernier à Kinshasa, les envoyés spéciaux de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine ont tous salué les progrès réalisés dans le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC. Ils ont par la suite réaffirmé leur détermination à poursuivre la traque des forces négatives et le respect des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba par tous les pays signataires. Les détails avec Michel Kifindangoui.
Les envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs saluent tout d'abord les efforts consentis dans le processus de l'accord cadre. La défaite militaire du M23, la déclaration de Kampala, le processus militaire contre les ADF, sans oublier la note positive sur le plan économique constatée dans le pays, sont parmi les progrès réalisés dans le cadre du suivi du dit accord cadre, d'après eux. Pour l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, l'option militaire pourrait être utilisée contre les FDLR en cas de besoin. Mary Robinson.
La situation de l'FDLA, nous sommes d'accord que c'est nécessaire d'avoir aussi l'option militaire si c'est nécessaire.
Pour l'envoyé spécial de l'Union européenne, les élections en RDC sont un rendez-vous crucial pour la région. Quand Verwijk insiste sur la nécessité que les élections soient vraiment transparentes et se déroulent dans les délais constitutionnels. Une position soutenue par ses collègues envoyés spéciaux, dont Boubacar Diarra de l'Union africaine.
Nous souhaitons que les élections programmées pour l'année 2016 en particulier se passe conformément aux principes de la démocratie du réel.
L'envoyé spécial des États-Unis, Russ Feingold, pense quant à lui qu'il serait une erreur grave pour la RDC de chercher à modifier la constitution en vue d'accorder un troisième mandat au président Kabila.
Les envoyés spéciaux ont rencontré le président de la République mardi dernier pour lui faire part des résultats de leur évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. À en croire le porte-parole du gouvernement, ses émissaires ont souligné les bonnes performances de la RDC à cet égard. Le ministre de la Mer Mende revient ici sur ce qu'a été la réaction du président Joseph Kabila et il est joint par Pele Kipelamondo.
Au sujet des élections, le président a souligné qu'il n'y a qu'une seule autorité en matière électorale en RDC, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Il a demandé aux uns et aux autres de ne pas chercher à mettre des pressions sur la Commission, ne pas chercher à donner des injonctions à la Commission. Comme lui, le président et son gouvernement respectent l'indépendance de la Commission, il engage tous nos partenaires extérieurs à respecter cette indépendance, à discuter avec la Commission de ses besoins et à travailler en étroite collaboration avec la Commission, mais pas à chercher à devenir des maîtres de la Commission, puisque la Commission, selon la volonté du peuple congolais, n'a pas de maître, parce qu'elle est indépendante.
Les États-Unis insistent une fois de plus sur la nécessité pour la RDC d'organiser les élections présidentielles avant fin 2016 dans le respect de l'actuelle constitution, principalement en son article 220. Au cours d'une conférence de presse jeudi à Kinshasa, l'envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs en RDC a affirmé qu'il soutient l'initiative du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, d'organiser des réunions avec des partis politiques et la société civile. Objectif, trouver un consensus en rapport avec le processus électoral. Pour Ross Feingold, cela n'atteint nullement la souveraineté de la République démocratique du Congo, comme le prétendent les autorités congolaises. Jean-Louis Miasiokama, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Nous nous rappelons que la CENI a procédé à la publication du calendrier électoral avec des élections locales le 26 mai dernier, et voilà qu'aujourd'hui, une semaine après, les envoyés spéciaux demandent à la même CENI de publier un calendrier électoral, cette fois-ci un calendrier global et non partiel. Votre lecture par rapport à cela?
Oui, c'est normal parce que il reste combien de temps? On est à la moitié de l'année 2014 et il reste juste 2 années. Et on connaît ce que représente tout le travail, tout le processus électoral dans notre pays en termes de travail, de logistique. Et je pense que aussi bien pour la CENI, il faut un tableau de bord d'un calendrier global pour bien gérer et manager les élections, mais aussi pour les partenaires extérieurs qui vont donner des fonds. Ils doivent aussi rendre compte à leurs différentes officines politiques, à leurs différents responsables qu'ils ont envoyés. Donc c'est une question de transparence, d'efficacité, et cela est tout à fait normal. Après, que l'on parle de respecter la CENI, oui, mais ingérence ou non-ingérence, d'accord, mais le problème c'est que quand ça va dans le sens des intérêts du pouvoir, c'est non-ingérence, mais quand ça ne va pas, c'est ingérence. Je pense que c'est à tout le monde de respecter la CENI.
Albert Romba, journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet depuis Kinshasa, une question de transparence et d'efficacité selon Jean-Louis Miasiokama. Vous avez suivi la réaction du chef de l'État à travers cette intervention de Lambert Mende. Selon lui, le chef de l'État a demandé qu'on ne fasse pas pression à la CENI, qui est une institution indépendante.
Oui, institution indépendante, on ne refuse pas. Mais comment la CENI va fonctionner? Elle fonctionne grâce aux moyens que le gouvernement va lui donner. Elle fonctionne grâce aux lois que le Parlement émet. Elle fonctionne grâce aux moyens de partenaires étrangers. Donc, parler d'indépendance, c'est entre guillemets. Et ici, le problème n'est pas de s'ingérer. Le problème, c'est d'avoir un peu plus de clarté pour éviter ce qu'on a connu en 2011. C'est-à-dire, quand la CENI n'a pas mal fait de publier un calendrier. Elle a publié le calendrier, mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ce calendrier soit global, c'est-à-dire soit définitif. C'est-à-dire qu'on commence les élections municipales, locales et provinciales au même moment. On va enchaîner avec les élections législatives et présidentielles. Ce qui fait qu'avec ça, ça permet ce que le partenaire a demandé à la CENI, ça leur permet d'avoir un coût global de leur intervention. Ce n'est pas qu'ils viennent s'ingérer dans les histoires de la CENI, mais c'est pour avoir une évaluation financière assez précise. C'est ça le premier point. Parce que nous savons que quand la CENI a publié son calendrier, il y avait quelques innovations. Par exemple, l'accréditation des observateurs qui ont maintenant accès dans le processus depuis le début du processus électoral, c'est-à-dire avec la fiabilisation de fichiers électoraux, avec la nouvelle cartographie. Ces observateurs peuvent observer, ils ont aussi accès au fichier central, ce qui fait que c'est déjà une innovation. Et avec le nouveau calendrier, on voit qu'on vient d'appuyer les arriérés de 2006-2011, parce qu'en 2006, on avait prévu qu'il y ait des élections municipales, locales et provinciales, au même moment que les élections législatives et présidentielles.
On n'a pas appuyé parce qu'avec la publication du calendrier électoral des élections locales, on n'a pas prévu les élections provinciales.
Voilà. Donc il y a le deuxième cycle qui n'est pas prévu. C'est pourquoi on a dit qu'on mette tout ensemble de façon qu'on ait une vue claire, une vue globale de dépenses, de tout ce qui est comme exercice à faire. De l'autre côté, il y a aussi les opposants qui ont levé la voix. Les opposants ont dit niette, il faut quand même qu'on nous concerte. Et vous savez que c'est ce qui nous évite toujours de problèmes à la fin. Si on débite, on peut se concerter pour avoir un point de vue
d'ensemble, pour cheminer ensemble entre gouvernement opposition, ça nous évite des contestations plus tard. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on puisse demander quelques rectifications sur ce calendrier.
Merci, Dimanche Kassare Kakamate, journaliste de la radio Moto Oicha de Butembo Nord Kivu. Pourquoi doit-on faire pression à la CENI quand on sait que c'est une institution qui est indépendante?
Oui, je crois, les conseils qui existent tantôt là-bas l'a très bien souligné. Par rapport au propos des envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs, je dois dire à nos dirigeants de faire respecter notre souveraineté et de nous faire respecter nous-mêmes. Vous serez peut-être d'accord avec moi, monsieur Guy, notre pays manque une organisation interne. Et ce manque d'organisation interne ouvre la porte à n'importe qui. Il fallait qu'on sait que même les étrangers se décident de dire n'importe quoi dans notre pays, ce qui n'est pas le cas chez eux. Nous devons aussi apprendre à écouter les avis de tout le monde, mais à condition que ces avis et conseils nous permettent de construire notre cher beau pays. Parce que à un certain niveau, nous l'avons toujours constaté, lorsqu'il y a organisation des championnats de football, c'est l'attente qui est là-bas, les calendriers, et cette même attente nécessite désigne les arbitres qui pourront officier donc le match. Mais une chose qui fait étonner est de constater que l'arbitre qui est désigné, brusquement, il va se présenter au stade portant une vareuse d'une équipe adversaire à une autre. Ça va étonner plus d'une personne. Donc, pour aujourd'hui, M. Malumalu, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante, il doit jouer le rôle d'une église. Une équipe prêche pour tout le monde. Mais quand M. Malumalu semble présenter son calendrier qui sera accepté par la majorité, les opposants, lorsqu'ils veulent avancer leurs arguments, ils sont mal écoutés. La société civile, elle est mal écoutée. Alors je me dis, qu'est-ce qui fait que la majorité comprenne la CENI et que les opposants, si que les membres de la société civile, ne puissent pas les comprendre? C'est-à-dire, à un certain niveau, il y a des choses que nous devons éclaircir. Il y a des choses que nous devons expliquer très clairement à la communauté tant nationale qu'internationale. Parce que cette CENI, nous sommes en train de les suivre, ces différentes contradictions dans lesquelles les Congolais se retrouvent actuellement, constituent une preuve, je ne suis pas prophète des malheurs, constituent une preuve d'une résurgence, n'est-ce pas, du chaos. Alors, cette CENI doit écouter quand même les opposants ainsi que les membres de la société.
Merci.
Ce n'est pas à dire que les choses ne sont pas en train de marcher bien, peut-être on n'est pas patriote. Nous devons accepter les remarques que les uns et les autres nous prodiguent.
Merci.
Ce sont des éléments très importants sur lesquels nous devons compter aujourd'hui. Lorsqu'il y a des envoyés spéciaux de la communauté internationale dans la région des Grands Lacs qui commencent à nous donner des injonctions, moi je me dis, est-ce que c'est ce que nous Congolais nous faisons aussi dans leur pays? Est-ce qu'ils ont des leçons qu'ils peuvent nous donner? Alors, comme ils constatent que le Congo c'est un pays où les désordres règnent à maître, ils en profitent.
Merci.
Pour nous donner maintenant des leçons.
Merci.
Alors, nous devons en profiter aussi pour dire, cette fois-ci, nous ferons mieux plus que vous.
Jean-Louis Miasekwama, après la publication du calendrier de la CENI sur les locales, il y a eu plusieurs réactions, et la plupart de ces réactions semblent, la plupart des personnes qui ont réagi semblent rejeter ces calendriers de la CENI. À votre avis, ça peut être dû à quoi? Est-ce que c'est par souci d'organiser des élections de façon consensuelle, comme le disent les opposants, ou c'est, carrément c'est la peur, n'est-ce pas, d'aller aux élections, comme le disent les membres de la majorité présidentielle?
Oui, mais comme vous le voulez, les élections, c'est capital pour une démocratie. Ce n'est pas la démocratie, mais c'est capital. C'est le moment du peuple. C'est là où ce que les acteurs politiques entrent plutôt en compétition que pendant que les périodes entre les élections sont plutôt en action. Et donc, il se fait là, comme on l'avait dit, que c'est bien les élections municipales. On les attend depuis je sais combien d'années. Il le faut parce qu'il faut rapprocher la gestion de la population à une gestion de proximité qui puisse désigner leurs gens. Mais ce n'est qu'une partie d'un tout, de tout un processus. Et la valeur de votre démocratie se voit par la périodicité des élections, leur respect des horaires et surtout le fait qu'on n'a que les arriérés électoraux. On dirait qu'on voulait faire des élections seulement pour des postes juteux. Juste pour le président de la République, juste pour avoir un président de la République, pour avoir des députés, pour avoir des sénateurs. Mais entre ce niveau législatif et le dernier citoyen de la population, il n'y a pas de niveau.
Et donc cela veut dire que la CENI a raison de prévoir les élections locales en 2015?
Non, disons qu'elle peut prévoir en 2015, mais le problème, c'est qu'elle doit aussi nous dire quand vont se passer les élections présidentielles, quand vont se passer les législatives, quand vont se passer les élections provinciales, et surtout qu'on puisse le dire et que ce soit dans les temps, pour apaiser les gens, et non seulement ça, que ce soit qu'on se mette pas à faire des élucubrations, comme dire, voilà, on va par suffrage indirect les élections des députés provinciaux, tout ça. Je pense qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il y a des éléments. Les indications sont là dans la loi électorale, s'il faut améliorer les choses, mais fondamentalement, il ne faut rien changer. Parce qu'il faut laisser, pendant au moins, pas mal de scrutins, le temps aux gens d'avoir à peu près une loi électorale stable qui permet d'ancrer la démocratie, et peut-être avec l'évolution démographique, avec la répartition, je peux dire, démographique dans le pays et d'autres implications, développement économique ou je ne sais pas quoi, on peut voir comment réadapter la loi électorale. Mais le problème maintenant, c'est le souci d'appliquer ce qui est dans la Constitution, d'appliquer ce qui existe et qu'on a, et de résoudre les arriérés électoraux. Et quand même, entre nous, ça devient quand même un peu trop de chaque fois se poser quand on approche des élections, est-ce qu'elles auront lieu, est-ce qu'elles auront lieu à temps, ainsi de suite. Je pense que c'est pas normal. Et de l'autre côté, il faut voir élections urbaines, municipales, locales, provinciales, des gouverneurs, sénatoriales, législatives, je pense à l'Assemblée nationale et présidentielle, mais l'avoir tout dans un package et à temps.
Albert Rambat, vous avez suivi M. Ross Feingold qui a affirmé hier que les États-Unis insistent une fois de plus sur la nécessité pour la RDC d'organiser les élections présidentielles avant fin 2016 dans le respect de l'actuelle constitution.
Oui, c'est le point d'achoppement qui fait qu'il y a trop de problèmes ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de suspicions, tout le monde est dans l'embarras pour savoir est-ce qu'il y aura d'abord, le calendrier va être respecté, c'est-à-dire à l'échéance du deuxième mandat du président de la République, est-ce qu'on va assister à l'organisation effective des élections? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, le respect de la Constitution. Ça veut dire que le président de la République qui a épuisé les deux mandats, est-ce qu'il va encore poser sa candidature pour un troisième mandat? Est-ce qu'on va modifier la Constitution pour cela? Donc, ça vous fait tout un tas de questions auxquelles les gens s'attendent à beaucoup de réponses, soit la population, soit les partenaires congolais, soit les occidentaux. Et c'est le calendrier électoral qui va aider tout le monde à être un peu fixé sur ça. Et la balle sera du côté du parlementaire. Qu'est-ce qu'ils feront? Comme ils ont fait en 2011 à modifier la Constitution, vous avez vu qu'ils ont remis l'élection présidentielle à un seul tour, ce qui a causé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes pour la proclamation des résultats. Parce que ceux qui avaient prévu cette sorte d'élection à deux tours savent que ça permet d'avoir au moins la majorité absolue au second tour. Parce qu'au premier tour, il y a des difficultés pour atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus 1. Maintenant, quand au premier
toujours
tour...
Toujours des majorités relatives.
Toujours la majorité relative. Et quand il y a une majorité relative, c'est-à-dire une personne qui a 50%, plus de 50%, ça pose le problème de légitimité. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi on a prévu un deuxième tour, de façon qu'il y a deux challengers. Un doit avoir 50% plus une voix. Et c'est celui-là qui va gagner les élections, et il a la majorité, il a la légalité et la légitimité au même moment. Il n'y aura plus de contestation à ce moment-là. Voilà ce qui est comme problème. Et c'est ça, ces inquiétudes-là, que les gens veulent avoir un peu plus clair là-dedans. Ça ne pose pas de problème.
Dimanche, Katereka Kamate, les forces politiques et sociales de la RDC, notamment l'UDPS, l'UNC, le FAC, le FONUS, le Parti travailliste, le RCD-KML, la société civile du Congo et différents syndicats, ont fait une déclaration hier dans laquelle ils exigent un calendrier électoral issu d'un consensus politique. Est-ce une solution pour apaiser le climat?
Oui, je crois que c'est important. Lorsque les classes politiques, comme celles précitées, s'expriment de la sorte, je crois, nous devons les écouter parce que l'important pour nous n'est pas d'organiser les élections, mais d'organiser des bonnes élections qui ne vont pas replonger le pays dans une situation de guerre. Donc, si du moins nous sommes en face d'une commission normale, une commission qui écoute, une commission qui comprend, qu'elle se mette à prendre en considération les avis, ainsi que les conseils de toutes les classes politiques, étant donné qu'on ne peut pas diriger un pays seulement avec une partie, il faut qu'il y ait implication de toutes les couches. C'est l'implication de toutes les couches qui va juste créer un climat d'apaisement. Et si une partie comprend et une autre ne comprend pas, alors dans les prochains jours, on risque de dire voilà ce que nous étions en train de vous dire arrive et vous ne pouvez pas supporter toutes les conséquences. Donc, au lieu d'assister encore à des épiphénomènes, il faut que nous puissions tenir compte, respecter toutes ces remarques-là que les autres sont en train de nous donner. Ça peut, je crois, sauver la situation dans ce pays.
Merci. Jean-Louis Miascoma, trouver un consensus en rapport avec le processus électoral, c'est une solution?
Oui, je crois, parce que je pense qu'il faudrait en tenir compte dans la vie de tous, déjà bien avant, pour les intégrer et le mettre dans le processus électoral. Et parce que chacun a un peu quelque chose à dire, a les expériences du passé à faire partager et peut-être des appréhensions qu'il voudrait ne pas voir, que ces appréhensions ne voient pas le jour. Et donc, la démocratie, c'est aussi un exercice du dialogue. Et donc, il faut nécessairement s'ouvrir à cela. Et surtout, les élections, c'est le moment du peuple, c'est le moment aussi du respect du peuple. Et tout ce qui engage cela, c'est en fait, ce dialogue peut permettre aussi une certaine stabilité. Un peu des cœurs, un peu des personnes, tout ça, mais de la même chose qu'il faut respecter la constitution pour une stabilité politique, de la même façon, il faut un dialogue pour une certaine stabilité. Parce que si on dialogue à tout moment, c'est sûr qu'on ne va jamais se faire la guerre.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, lancement officiel depuis vendredi passé du processus de reddition des combattants rwandais FDLR dans le Kivu. Selon le gouverneur du Nord Kivu, c'est un peu plus de 5000 FDLR, dont 1400 combattants et leurs dépendants, qui sont concernés par ce processus. Mais seulement une centaine s'est rendue jusque-là. La société civile de Lubero dit attendre voir des FDLR la matérialisation de cette promesse, car ils ne sont pas à leur première annonce du genre. Vendredi passé, la SADC et les dirigeants des FDLR ont échangé sur le sort de ces combattants rwandais qui se sont rendus à Kasekou. En attendant, ces combattants sont au camp DDRR de la MONUSCO à Kanyabayonga, territoire de Lubero, où se trouvait notre envoyé spécial Rosalie Zawadi.
Un jour arrivera et nous rentrerons chez nous, chanter les réfugiés rwandais et dépendants des FDLR. Ce matin, devant l'école primaire du village de Kasekou, et ce jour est presque arrivé, espère toutes ces personnes. Notre geste de ce jour traduit notre volonté de voir tous les peuples et tous les états de la région vivre en paix, a dit le général-major Victor Biringiro, président des FDLR FOCA. Et en contrepartie, les FDLR souhaitent que la communauté internationale obtiennent du gouvernement rwandais la tenue d'un dialogue inter-rwandais inclusif et sincère. Ils demandent aussi que soit levé l'embargo qui pèse sur plusieurs de leurs dirigeants. Les délégués de la SADC, auprès de qui ces combattants et ces armes ont été remis, promettent que cette organisation régionale va totalement s'impliquer pour un bon aboutissement de ces processus. Signalons que la délégation du gouvernement est conduite ici par le vice-gouverneur Ferrer Lutai Kirwa et la communauté internationale est représentée par Rey Virgilio Torres, chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu. Depuis Kasekou, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Albert Komba, journaliste à Tropicana FM, une radio qui émet depuis Kinshasa. Votre analyse par rapport à ces processus de reddition des combattants FDLR?
Oui, moi je crois que nous sommes arrivés à la vitesse supérieure. C'est une reddition qui a pris beaucoup de temps quand nous avons commencé à faire les comptages. À l'époque, je crois, le 2002-2003, Kagame qui disait qu'il y avait 6000 FDLR à RDC. En faisant le décompte de tous ceux qui ont fait reddition, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui à peu près 1400. Alors,
ils sont estimés à 1400 combattants.
Combattants.
Et le reste, c'est les dépendants.
Ce sont les dépendants.
Mais jusque-là, il n'y a qu'une centaine qui se sont rendus.
Voilà. Il y a une centaine, ce qui ne représente pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est d'abord que les FDLR comprennent que c'est le moment ou jamais de déposer les armes. Parce que, apparemment, les Congolais ont beaucoup souffert de la présence de FDLR. Les Rwandais ne peuvent pas poser tellement de conditions pour qu'il y ait dialogue. Parce que
tout ce qui a eu comme conséquence néfaste, effet néfaste de la présence des FDLR, c'est à la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais attendu, depuis que ces gens sont partis du Rwanda, qu'ils sont allés tuer déjà au Rwanda. Mais c'est à RDC où ils ont fait beaucoup de ravages, ils ont tué sauvagement beaucoup de gens, et finalement, aujourd'hui, la pression existe. La MONUSCO qui a mis tous les moyens, les FRDC qui ont les moyens aussi pour les traquer. C'est quoi okay, après le M23, l'ADF Nalou, c'est le tour des FDLR. Maintenant, comment ils vont faire reddition? C'est là la grande question. Vous savez que tous ces gens sont sur l'axe forestier. Et vous verrez ceux qui vont arriver à Kanyabalonga ont été vers le Ofu, à Kisiku. Donc, vous allez prendre cet axe. Est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mise à compétition en dehors des sites que la MONUSCO a mis à la disposition de FDLR pour que ces gens quittent la forêt, là où ils se trouvent, pour atteindre un point bien précis. Le général Wafi a dit qu'on a mis un site assez important à Kanyabayonga et notre vers Walungu Kabare, mais ceux qui sont au-delà, je prends par exemple au-delà de Mangurujipa ou Itaito, comment ils vont arriver au site de reddition? Quel est le mécanisme qui a été organisé? Parce qu'il faut que l'axe Luofu, jusqu'à Mangina, jusqu'à Itaito et Konso, il faut un mécanisme.
C'est au nord Kivu.
Oui, au nord Kivu. Maintenant au sud Kivu, ceux qui sont dans le territoire de Kabare, par exemple, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent, par exemple, à Kalonge. Mais de Kalonge, il faut aller jusqu'à Misisi. Parce que c'est là la limite de Bunyakiri, Walikali, tout ça. Ombo, c'est dans cette limite où vous allez jusqu'à Chabunda où ils sont venus ces gens. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il faut maintenant demander aux Mai Mai qui sont les conséquences de la présence des FDLR. Tout, nous avons une cinquantaine de groupes Mai Mai qui s'étaient formés sur ce tronçon pour combattre les FDLR. Maintenant que les FDLR vont faire reddition, est-ce qu'ils ont le moyen de traverser tous les barrages dirigés par les Mai Mai pour atteindre le point de reddition? C'est ça la grande question. La dernière, c'est comment convaincre la population à faciliter les déplacements, parce que la population qui a été traumatisée, est-ce qu'elle va permettre ces gens à traverser autant de villages pour aller déposer les armes? C'est ça la grande question auquel on n'a pas résolu.
Merci pour toutes ces questions. Dimanche, Katere Kakamate, journaliste à la radio Moto Oicha de Butembo au Nord Kivu. Ces rebelles sont estimés à plus de 5000, dont 1400 combattants et le reste c'est des dépendants, mais jusque là une centaine se sont rendus. On sent qu'il y a une certaine réticence, n'est-ce pas, de la part des rebelles FDLR. Pourquoi, comment on peut justifier cela?
Moi je vois un danger parce que je suis en train de les suivre à travers la bouche. Donc, le gouvernement doit critiquer la ceux-là qui ont accepté de se rendre, il faut conduire jusqu'à l'équateur. Et je me pose la question, est-ce qu'à l'équateur, il y a des gens qui vivent là-bas? Parce que nous savons que c'est le FDLR. Ils ont violé, ils ont volé, ils ont assassiné, ils ont commis tous les genres de crimes. Et moi, je crois que la communauté internationale qui a accepté, qui a demandé à notre territoire, même communauté facilite son entraînement. Je ne fais pas une forme de ces nombres-là, mais moi j'ai dit tous ces gens-là qui s'appellent FDLR, prenez besoin de dire les nombres, prenez besoin de dire bon, c'est ça, c'est son mari. Moi j'ai dit tous ces gens que nous appelons FDLR. Il faut que Kagame, le président rwandais, accepte d'ouvrir la porte à ce frère, qu'il puisse recevoir ce frère parce qu'ils sont plus urgents au Congo, ou l'être dans son pays, il ne faut pas chaque fois compter, comme je le disais, il ne faut pas chaque fois compter les ronds, il ne faut pas chaque fois compter le nombre de personnes violées. Nous sommes aussi un peuple qui a droit à la vie, un peuple qui a droit à une dignité. Et cette communauté, elle peut se nous aider juste à rapatrier ces gens, à remettre ces gens dans le pays du Rwanda.
Merci Jean-Louis Miasokoma, rédacteur en chef à Antenne A, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Ces rebelles disent qu'ils sont prêts à déposer les armes et retourner chez eux au Rwanda. Ils souhaitent en contrepartie que la communauté internationale obtienne du gouvernement rwandais la tenue d'un dialogue inter-rwandais inclusif et sincère.
Et quand on regarde de l'autre côté à Kigali, on dirait réponse vœux pieux. Oui, parce que d'abord, c'est FDLR, c'est 20 ans au moins. politique. C'est pratiquement un problème qui date d'une vingtaine d'années. Mais aussi, étant donné qu'on a imposé pratiquement un dialogue intercongolais aux Congolais, pourquoi ne pas imposer un dialogue intercongolais aux Rwandais?
Inter-Rwandais, au Rwanda,
ou dans un autre pays, mais qui puissent se voir en face et tourner la page enfin ensemble. Je pense que chacun doit un peu récupérer ses gens et pour que les pays puissent avancer. On ne peut pas continuellement, et surtout du côté du président Kagame, continuer une politique en fait d'exclusion des gens. Ça fait déjà 20 ans, c'est arrivé. Il y a des nouvelles générations qui ont grandi, qui ont droit à vivre, rentrer chez elles ou rentrer là où venaient leurs ancêtres ou leurs parents et vivre aussi dans la paix. Mais aussi, c'est de répondre à la dynamique de la région. On a vu les envoyés spéciaux, le corps d'Addis Abeba, tous les envoyés spéciaux des Grands Lacs, ainsi de suite. Mais parce que cette région a besoin, effectivement, d'être totalement pacifiée. Parce que c'est une région qui a promis une grande prospérité, mais pour tous. Mais ça ne passe pas sans la paix. C'est-à-dire que la logique, le système d'exploitation lié aux groupes armés, au pillage et à la politique de rapine et tout ce qu'on veut, va laisser place à une véritable politique de développement avec aussi peut-être des grosses industries, etc. Mais il faut le rendre profitable à tous, mais il faut nécessairement qu'on arrive à pacifier. Et à pacifier, il faut que chacun rentre dans son locus standi.
Albert Omba, vous avez posé une série de questions, n'est-ce pas, qui traduisent les difficultés que ces combattants FDLR auront pour quitter leurs différents maquis. Et notre problème qui se pose, qui se posera, c'est celui de la délocalisation de ces rebelles. Hein. Vous avez suivi, hein, il y a le gouverneur Julien Paluku qui dit qu'il y a un site qui a été aménagé où ils seront relocalisés provisoirement à l'ouest du pays, et pendant que beaucoup de gens souhaiteraient voir ces gens, donc les rebelles FDLR, rentrer immédiatement chez eux au Rwanda.
Bon, rentrer immédiatement, ça pose problème parce que c'est que Jean-Louis vient de dire, il faut qu'il y ait une acceptation de la part du président Kagame pour que ces gens rentrent. Parce que si on prend cette histoire des FDLR, qui est FDLR aujourd'hui? Tous ceux qui ont participé au génocide de 1914 jusqu'à aujourd'hui, ça fait des gens qui sont nés à cette année 20 ans. Et ceux qui devaient participer devaient avoir plus de 18 ans. Donc, si quelqu'un, un FDLR de au moins 38, du moins 35, 40 ans moins, c'est un FDLR qui n'est pas membre du génocide qui s'est passé au Rwanda. Ça, c'est le premier aspect que les Rwandais doivent comprendre. Donc, la plupart de ces gens ne sont pas dans les crimes qui ont été commis au Rwanda. Donc, il faut leur laisser la possibilité de rentrer au Rwanda dignement avec un appui politique. Maintenant, les groupes qui ont pris part au génocide, mais quand ils vont rendre les armes, la justice est là, on va les mettre de côté et ils seront jugés et ils vont répondre de leurs crimes. Et ça ne doit pas bloquer la machine parce qu'il y a des gens qui ont participé au génocide. Et le Rwanda doit se souvenir que ça fait plus de 4 opérations punitives dont ces mêmes gens ont été victimes. On les a refoulés du Rwanda dans les années 97. Ils ont fait le pied du Rwanda jusqu'au Gabon. Et vous connaissez combien d'atrocités qui ont été commises à leur égard. Ça, on n'en parle même pas. L'RCDR est venu à deuxième lieu. Les SNDP, les M23. Et tout ça, ça a causé beaucoup de problèmes. C'est ce qui inquiète aussi. Je ne fais pas l'avocat des FDLR. C'est ce qui inquiète beaucoup ces ressortissants pour revenir à leur pays. Donc, il faut qu'il y ait des garanties.
Et maintenant, là, il se pose un problème de les délocaliser sur le territoire congolais. Selon, d'ailleurs, les porte-parole de la société civile du Nord Kivu, certains membres de cette société civile ont été interpellés aujourd'hui par la police à Goma parce qu'ils s'apprêtaient à faire une déclaration à travers laquelle ils s'opposent à tout cantonnement des FDLR sur le territoire congolais.
Cantonnement, là, le problème revient au niveau, c'est le même problème qui se pose, ça revient au niveau de la communauté internationale, parce que les Congolais qui ont souffert des atrocités des FDLR ne peuvent pas accepter leur présence. Au même moment, il faut les rapatrier au Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord il faut qu'ils se rendent d'abord, et on verra comment on va trouver une solution pour leur campement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël était à la technique, Alain Irung à la réalisation sous la supervision de Pelle Kipela Mondo, devant ses micros Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.